Radio Campus, il est 3h.
Radio Campus.
Campus.
La nuit.
On réécoute une émission magazine suivie d'une émission musicale à 4h.
Était-ce mai, novembre ici ou là? Était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur 106,6 FM Radio Campus Lille dans l'émission Ensemble, tous ensemble. Nous sommes le mardi 6 mai, il est 16h et nous serons ensemble jusque 17h. Nous espérons que vous avez apprécié la dernière émission que nous avons consacrée au service rendu par le CLIC pour le Centre local d'information et de coordination qui a pour objectif premier d'accompagner les personnes dites âgés dans le maintien de leur autonomie. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu de hauteur et de recul sur le sujet du vieillissement aux côtés d'un sociologue, Michel Billet. N'habitant pas le nord de la France, nous réalisons cette émission par téléphone, ce qui nous arrive trop peu souvent. Nous allons tâcher d'assurer comme il se doit. N'attendons pas plus longtemps pour lui donner l'occasion de se présenter, lui et ses divers travaux. Alors Michel, bonjour. Pouvez-vous vous présenter, vous, votre parcours, vos divers écrits?
Alors, bonjour. Merci de m'inviter à prendre la parole, à partager avec vous quelques réflexions sur ce processus remarquablement intéressant qu'est le vieillissement de la personne, de la population, de la société, etc. Alors, me présenter. Je m'appelle Michel Billet. Première chose, pour faire simple, je suis vieux. Voilà. Et en le disant comme ça, je fais exprès, pas seulement pour le plaisir d'un petit peu de, pour le plaisir d'un peu de provoque, pas seulement pour provoquer un petit peu, mais tout simplement parce que c'est vrai. Voilà. J'ai bientôt 78 ans, vous vous rendez compte, c'est-à-dire presque 80. Voilà. 4 fois 20 ans, non mais c'est inimaginable ce genre de choses. Donc oui, voilà, je suis vieux. Alors, comme sociologue, je continue à travailler aujourd'hui parce que j'aime ça. Je suis même pas vraiment obligé parce que j'aime ça, parce que j'ai la chance que on m'interpelle, on me demande mon avis sur 2-3 sujets, quelques questions, etc. On me demande de venir faire une conférence par-ci, par-là, de venir contribuer à un colloque, à un congrès. Alors, j'ai cette chance. Il semble bien que ce que je peux dire, par exemple au sujet de la vieillesse, ça semble intéresser mes contemporains. Je ne vais quand même pas me priver du plaisir de partager ça. Et pourtant, très souvent, j'entends « Non mais alors, mais quand est-ce que tu arrêtes ? Mais pourquoi devrais-je arrêter ?» Voilà. Quand est-ce que tu arrêtes ? Ben, je ne sais pas. Je vais arrêter certainement quand je serai mort, peut-être même un petit peu avant, mais après tout, pourquoi devrais-je arrêter ? Et ce genre de questions, c'est quelque chose qui, tout au long de ma vie, je crois, c'est quelque chose qui m'a travaillé, qui m'a dérangé, qui m'a tenu debout. Permettez-moi une petite anecdote
qui va
permettre de rendre hommage à quelqu'un que j'ai eu comme prof, comme enseignant, quand je faisais ma maîtrise de sociaux. J'étais déjà éducateur spécialisé, j'avais travaillé comme éducateur, devenu formateur, etc. Voilà. Et un jour, un de mes profs, qui s'appelait Paul Blancard, il est mort l'année dernière, un type absolument extraordinaire, et vraiment, quand je dis que je suis heureux de lui rendre hommage, je vous assure que c'est vrai, parce que c'était vraiment, à mes yeux, un bienfaiteur, vraiment. Il arrive et il dit, la dernière fois, j'ai oublié, j'aurais dû vous demander de réaliser des exposés. Alors, il regarde ceux qui étaient devant dans l'amphi, il donne un exposé à une étudiante, un exposé sur la transformation du statut des femmes, un exposé, un autre sur la transformation du rapport au travail, un autre sur, etc. Puis moi, il me regarde, nos regards se croisent, il me regarde, puis il me dit, vous me ferez un exposé sur le vieillissement de la population. Et je lui réponds, j'y connais rien. Et il a cette formule incroyable, il me répond « raison de plus ». Voilà. J'y connais rien, raison de plus, c'est-à-dire que que la question n'est pas de savoir si ça m'intéresse, la question est de savoir comment je vais faire pour m'y intéresser. Et grâce à lui, parce qu'il m'a donné des indications bibliographiques, il m'a permis de rencontrer des gens, de discuter avec lui, grâce à lui, je me suis intéressé au vieillissement de la population et ça ne m'a plus jamais lâché. Alors, je suis devenu directeur adjoint de l'Institut Régional du Travail Social à Poitiers, voilà, et comme directeur adjoint de cette IRTS de Poitiers, eh bien, j'ai développé des formations sur tout le domaine de la gérontologie, de l'accompagnement et enfin, du vieillissement de la population et de l'accompagnement des personnes qui, en vieillissant, rencontrent parfois des problèmes. Et puis, évidemment, ben, j'ai travaillé comme ça jusqu'à mon départ, à ma retraite et tout. Depuis que je suis à la retraite, je continue. Et j'ai été sollicité, par exemple, par les éditions RS, qui sont des éditions basées à Toulouse, qui font un travail remarquable, je trouve, pour co-diriger une collection que les éditions avaient appelée la collection « L'âge et la vie ». Et j'aime bien ce binôme « L'âge et la vie ». Parce que vieillir, c'est vivre, puisque de toute manière, vivre, c'est forcément vieillir. Alors voilà, l'âge et la vie, et il y a une multitude d'ouvrages qui sortent, qui sont sortis et qui continuent à sortir dans cette collection. Je trouve ce travail très intéressant, évidemment. Voilà, pour faire vite la présentation, il faudrait citer tant d'autres personnalités qui ont été importante dans ma vie, et j'essaierai d'en citer d'autres au fur et à mesure de nos échanges.
C'est ce que j'ai à dire. On aura l'occasion courant de l'émission. Alors, merci pour la présentation. On vous sollicite pour les colloques, on vous sollicite aussi pour des émissions de radio. Donc, merci d'avoir accepté d'être présent dans Ensemble, tous ensemble. C'est parfait. Nous, aujourd'hui, on va essayer de s'arrêter sur certains de vos derniers ouvrages. On ne pourra pas tous les voir, je pense, aujourd'hui. On en a choisi quelques-uns en préparant cette émission. Et on voudrait s'arrêter sur le premier, qui est « La tyrannie du bien vieillir » par en 2010. Deux ans plus tard, vous avez publié « Manifeste pour l'âge et la vie, réenchanter la vieillesse ». Et encore deux ans plus tard, vous avez publié « Lien conjugal et vieillissement ». Alors, si ça vous va, on va essayer de s'arrêter sur ces deux premiers sujets. Peut-être que la tyrannie du bien vieillir viendra en fonction de nos discussions. Mais avant ça, alors, vous nous avez un petit peu donner un début de réponse, mais j'avais une question. Savez-vous nous dire, si je peux me permettre l'analogie, pourquoi vous êtes tombé dans la marmite du vieillissement et qu'est-ce qui vous y passionne sur ce sujet ?
Ce qui me passionne sur ce sujet, c'est le fait que nous vivons dans une société qui n'aime pas sa vieillesse, la vieillesse, et qui, à peu de choses près, n'aime pas beaucoup les vieux. Il conviendrait... Pardon ?
Sauf dans notre émission, on les adore les vieux.
Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je parle d'une société globalement...
Bien sûr. Je vous taquine parce que je vous sens taquin aussi.
N'aime pas la vieillesse et n'aime pas les vieux. Alors, ça va se loger partout. Par exemple, le titre du bouquin que vous avez évoqué, « Manifeste pour l'âge et la vie »,« Réenchanter la vieillesse ». Voilà. Pourquoi faut-il la réenchanter ? Mais parce qu'elle est largement désenchantée. Et on pourrait dire « désenchanteresse ». Est-ce que vous connaissez des gens qui osent vous dire « Ah ben moi, j'ai tellement envie de vieillir, je voudrais devenir vieux » parce que il est sous-entendu que ce n'est pas bien d'être vieux.
Les tout petits, souvent, les enfants, ils disent j'ai hâte d'être adulte, de pouvoir être libre, etc. Mais adulte, pas forcément vieux, effectivement.
Voilà, exact. Oui. Or, je ne peux pas grandir, devenir un jeune, adulte, et puis sans vieillir. C'est Michel Philibert, un philosophe dont vous avez pu entendre parler, qui est décédé déjà depuis une vingtaine d'années. Il était grenoblois, prof à l'université de Grenoble, et il était le papa, le père de Nicolas Philibert. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Nicolas est réalisateur de cinéma, et il est l'auteur en particulier d'un film remarquable qui était intitulé « Être et avoir ». Bref, je ferme cette parenthèse, mais je suis content de pouvoir souligner ça. Michel Philibert, il avait une formule, une phrase d'une simplicité merveilleuse, mais qui en dit long. Il disait, je cite, « Demain, je serai un peu plus vieux ou je serai mort ». Eh bien voilà, la seule manière que j'ai de n'être pas mort demain, c'est de vieillir. Voilà. Alors, vieillir dans une société qui n'aime pas sa vieillesse, qui n'aime pas la vieillesse, une société dans laquelle, à peu de choses près, on vient vous dire « Bon, vous avez le droit de vieillir, allez, à une condition. Vous avez le droit de vieillir à condition de rester jeune. »
Ah, et de bien vieillir.
Eh bien, ceci constitue une espèce d'imbécilité, je n'ai pas d'autre mot, une imbécilité terrible et terriblement malfaisante, terriblement destructrice. Vous avez le droit de vieillir à condition de rester jeune. Mmh. Mais non, je ne peux pas vieillir et rester jeune. Alors,
et est-ce que Michel, vous diriez que vous vous sentez, pris d'une mission de devoir montrer que, voilà, à 78 ans, on peut encore faire beaucoup de choses, être très actif, et en même temps, ne pas être actif pour les autres, mais plutôt, pour les autres, mais aussi pour soi, le faire avec envie, tout ça. Alors, oui. Certes, c'est pas donné à tout le monde, parce que ça dépend aussi des conditions de santé, des conditions de vie d'avant.
Bien sûr.
Ça, c'est une certitude, oui. Mais est-ce que vous diriez que vous avez un peu cette mission de réenchanter la vieillesse, de la montrer sous un autre angle, de casser cette représentation qui est négative? Est-ce que vous diriez que oui. C'est ça qui vous passionne aussi quelque part, c'est de dire qu'il y a toujours à faire parce que la société, elle reste très négative auprès oui. des vieux?
Oui, alors merci de me suggérer ça. Mais j'aime bien la manière dont vous le formulez. Oui, je considère que ça fait partie de ce que j'ai à faire avant de mourir. Je n'ai pas l'intention de mourir. J'aimerais bien que ça tarde un petit peu.
On vous le souhaite aussi.
Un de mes modèles s'appelle Edgar Morin. Il n'a que 103 ans. Eh bien, allez, continuons. Moi, je signe pour faire comme lui. Et à 103 ans, il continue à prendre la parole, à oser dire ce qu'il pense, voilà, et à oser proposer des analyses du fonctionnement sociétal dans lequel nous vivons. Alors, s'agissant de la vieillesse, par exemple, on me pose souvent la question, qu'est-ce que c'est vieillir ? Et on ajoute très volontiers, parce que, de toute façon, la vieillesse, c'est pas une question d'âge.
C'est exactement ce que je vais vous demander, parce que vous parlez d'âge. Est-ce que c'est une question d'âge de vieillir ?
Ce n'est pas que une question d'âge,
oui.
Mais bien sûr que c'est une question d'âge. Si Coluche était toujours vivant, je crois qu'il nous dirait « Je suis beaucoup plus vieux que quand je l'étais moins ». Voilà, c'est tout. Et oui, c'est une question d'âge, même si ce n'est pas qu'une question d'âge. Et souvent, en posant cette question, on ajoute quelque chose du genre « D'ailleurs, il y a des vieux jeunes et des jeunes vieux ». Non, il n'y a pas des vieux jeunes et des jeunes vieux. Il y a, ou alors ça voudrait dire que jeune est synonyme de « tout va bien, je suis en pleine forme » et vieux, synonyme de « tout va mal, c'est la catastrophe ». Eh bien, il y a des jeunes qui vont bien, il y a des jeunes qui vont mal, il y a des vieux qui vont bien, qui sont en pleine forme, il y a des vieux qui vont mal, d'accord ? Et les jeunes qui vont mal, il faut que nous sachions aller vers eux, essayer de comprendre, essayer de les accompagner, de les aider, de les soutenir, etc. Et les vieux qui vont mal, même chose, mais les jeunes qui vont bien, eh bien, voilà, qu'ils profitent de cette chance pour s'ouvrir au monde, pour le réinventer, pour, et pour aller vers les vieux qui ont besoin d'eux, d'accord ? Donc, La vieillesse, vieillir, c'est une question d'âge, mais ce n'est pas qu'une question d'âge, parce qu'en fait, vivre, c'est-à-dire vieillir, c'est de toute manière procéder à ce que je pourrais appeler une sorte de remaniement continu du rapport au temps, du rapport au monde, du rapport aux autres, du rapport à soi-même. Je n'ai pas le même rapport au temps à 80 ans, à 60 ans, à 40, à 20 ans, à 5 ans. Voilà. Je ne pense pas le temps de la même manière. Je ne le vis pas de la même manière. Oui. Ça ne veut pas dire je m'ennuie jamais. Ça ne veut pas dire... Mais pas de la même manière. C'est pas la même chose.
Moi,
vous voyez, rapport au temps, rapport au monde, rapport aux autres et rapport à soi-même.
Moi, j'aime bien dire qu'on est toujours le vieux de quelqu'un et le jeune d'un autre par rapport oui. à l'âge. Et vous, vous dites, il y a les jeunes jeunes et les vieux vieux. Qu'est-ce que vous entendez derrière ça?
Eh bien, être jeune, c'est d'abord une question d'âge, voilà, et acceptons que petit à petit, je sois de moins en moins jeune, c'est-à-dire de plus en plus vieux, parce que jeune, encore une fois, ne signifie pas tout va bien, et vieux ne signifie pas tout va mal.
Parce que c'est voilà. une chance de vieillir.
Donc, oui, voilà, et c'est le titre, c'est rigolo que vous disiez ça, parce que c'est le titre de mon tout premier bouquin, il est sorti en 2004, ça fait donc 21 ans déjà, ouais. vous vous rendez compte, voilà, je l'avais intitulé « La chance de vieillir
eh ». Oui.
Et petite anecdote, si vous me permettez, je l'avais offert, quand il est sorti, à une voisine, une dame épatante que j'aimais beaucoup, qui avait 85 ans, quelque chose comme ça, une femme remarquable qui avait eu une vie d'épouse, de maman, de chef d'entreprise, elle avait eu une vie assez remarquable. Je lui offre mon bouquin et quelques temps après, je la croise dans le chemin où j'habite, je la croise. On se dit bonjour, on se parle un petit peu, et elle me dit oh, vraiment merci pour votre livre. Je l'ai lu, je suis d'accord sur tout, sauf sur le titre. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle dit, ben, je sais pas, la chance de vieillir quand même. Et là, elle s'arrête, puis elle me dit, ben non, vous avez raison, parce que si j'arrête de vieillir, eh ben, c'est que je serai morte. Mmh. Voilà, tout simplement. Donc,
on revient à ce que vous disiez juste avant.
Exactement.
Ouais.
Vraiment, vieillir, c'est une chance, et cette chance ne nous est pas donnée à toutes et à tous. Mmh. Hein? Il y a déjà 2 ans, j'ai perdu un petit-neveu, c'est-à-dire le petit-fils d'un de mes frères. Il avait 25 ans. Voilà. Il est mort d'un accident, il est en faisant du sport. 25 ans, vous vous rendez compte? Voilà. Eh bien, il n'a pas eu la chance de vieillir, tout simplement. Ouais. Et quand on prend conscience de cela, on ne regarde plus sa vieillesse tout à fait de la même manière.
Oui, je pense que c'est très associé dans votre propos, Michel. Le fait de vieillir, c'est aussi le fait de vivre sa vie, finalement, de vivre plein de choses, plein d'expériences. Et donc, forcément, si on reste jeune, et en plus, si on meurt jeune, on n'aura pas la chance de voir le monde évoluer autour de soi, son monde à soi aussi. Donc, exactement. Vieillir, c'est avoir cette chance aussi de rencontrer plein de vieillesse, de rencontrer plein de jeunesse, et puis de faire exactement. Avec tout ça.
Exactement. Plein d'aventures,
ouais.
bien sûr. Et en plus, la chance de découvrir une dimension, de découvrir à notre vie une dimension de liberté à laquelle on ne pouvait même pas penser avant. Pourquoi? Parce que vieillir, c'est petit à petit se libérer d'un certain nombre de contraintes sociétales, d'obligations à côté desquelles nous ne pouvions pas passer. Et par exemple, les contraintes professionnelles, les contraintes du travail. Voilà. Aujourd'hui, on me demande une conférence. Cette conférence...
Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
Des heures de travail. Je suis libre de dire oui ou de dire non. Mais si le sujet me plaît, si le contexte m'intéresse, si, mais évidemment, je vais dire oui. Et évidemment, je vais avoir la chance d'aller rencontrer à l'autre bout, de traverser la France et d'aller rencontrer quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais... Voilà, et qui... Merveilleux. Ça, cette chance-là, voilà, eh bien, cette liberté-là. Alors, on pourrait dire que c'est la liberté de vieillir, mais c'est la liberté d'une multitude de choses. Pendant le confinement, vous vous souvenez qu'on a eu des mobilisations sur la retraite et tout. Je me souviens être allé à un certain nombre de manifestations et avoir partagé un certain nombre de ces manifestations avec des groupes d'étudiants que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vus, etc., et qui étaient tous surpris qu'un vieux, comme moi, vienne faire la manif avec eux et vienne participer exactement à la même mobilisation. Et je me souviens d'un moment particulier où ces étudiants commencent, après avoir eu des slogans, etc., ils commencent à chanter « Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim », voilà. Et je me mets à chanter avec eux. Et il me dit « Mais vous, un jeune homme qui était à côté de moi, 20 ans, 22 ans, il me dit « Mais vous connaissez ça ? Mais comment ça se fait que vous connaissez ça ?» Voilà. Et c'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. Voilà. Et il me dit mais comment ça se fait que quelqu'un de votre âge, puis il se marre, il me dit que quelqu'un de vieux comme vous connaisse ça. Et je lui raconte pourquoi, comment. Et là, ça y est, on était un tout petit groupe de j'étais combien des copains copines, ils étaient 7 ou 8. Voilà. Et moi, je faisais le 9e, mais on a parlé pendant 1h30. On n'a pas arrêté, ils n'ont pas arrêté de me questionner. Mais d'où venez-vous? Quel âge avez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais comment ça se fait que...
Voilà. Quelque part, vous avez cassé cette représentation de la vieillesse. Pauline allait dire la même chose. On était en train de se battre pour dire « Waouh, quel message !» Je pense que vous avez touché un petit groupe de jeunes qui s'est sans doute dit en repartant peut-être que l'image de la vieillesse a bougé grâce à Michel Billet qu'on a rencontré lors de cette manif.
Et il y en a dans le groupe, il y en a plusieurs qui m'avaient demandé mon numéro de portable, je leur ai très volontiers donné, et il y a pas très longtemps, il y en a un d'eux qui m'a téléphoné en me disant « Je sais pas si vous vous souvenez, non, je sais pas si tu te souviens, il m'a tutoyé, c'est rigolo, je sais pas si tu te souviens, on avait fait une manif ensemble, j'aimerais bien te rencontrer pour te parler de mon mémoire. »
Génial.
Oh, il a un mémoire à faire, il sait pas comment s'y prendre, et il m'appelle, mais ça c'est... Voilà. Vous la voyez, la chance de vieillir, elle est là.
Ouais.
Pour moi, elle est là. La chance de rencontrer ce jeune homme remarquable, qui me téléphone pour me dire, je voudrais bien te parler de mon mémoire, il y a à faire un mémoire sur... Allez, formidable. Moi, je trouve ça la chance de l'échange, de la rencontre, de la conjonction des points de vue, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout, évidemment, mais qu'est-ce que ça peut faire? Vous voyez?
Ah, mais c'est ça, justement, le changement de regard et puis de croiser les informations. Moi, j'ai le sentiment quand même que vous aimez faire bouger les lignes. Enfin, voilà, vous nous parlez de vos missions et de casser les représentations. Vous aimez le faire en chanson aussi, a priori.
Oui.
Et parfois même, vous faites des conférences en chanson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette conférence?
Alors, écoutez, oui, c'est rigolo, cette histoire. Un jour... On était exactement au tout début du confinement. Donc, on est dans l'hiver 2019-2020.
Ouais.
Vous voyez, il y a 5
ans. Oui, on voit bien, on voit. Même si on veut oublier, on voit.
Je reçois un coup de fil. Oui, hein. Je reçois un coup de fil. J'étais chez moi en train de travailler. Je reçois un coup de fil d'une dame qui se présente en me disant, là encore, je suis content de lui rendre hommage, si vous saviez, même avec beaucoup d'émotion. Elle se présente en me disant, voilà, je m'appelle Nicole Fabre, je suis psychanalyste à Paris et je fais partie du comité de rédaction d'une revue intitulée imaginaire et inconscient. Alors, oui, j'ai déjà vaguement entendu parler de cette revue, mais à peu de choses près, je ne la connais pas. D'accord ? Donc, je lui dis oui, très bien. Et elle me dit, on voudrait faire un numéro spécial sur psychanalyse et vieillesse, avancée en âge. Et votre nom a été évoqué pour vous demander un article. Ah bon ? D'accord. Vous vous rendez compte ? Des psychanalystes qui pensent à moi pour me demander un article. Ben écoutez, je trouve ça flatteur, je trouve ça épatant. Donc je lui dis, ben allez, volontiers, on en parle. Et elle développe et elle me dit, un article sur les représentations de la vieillesse dans la société.
Bon. C'est un sujet qui vous passe
alors, bien, donc. Les représentations. Je lui dis, écoutez, oui, vous vous rendez compte à quel point c'est immense comme sujet. Or, forcément, vous allez me limiter. Vous allez me dire que j'ai droit à tant de pages, et tant de pages, ça fait tant de signes, tant... Bon, je dis oui, bien sûr. Bon, on continue à discuter, puis au bout d'un moment, elle me dit, bon, allez, il faut que je passe à autre chose, parce que j'ai un rendez-vous. Vous y réfléchissez de votre côté, moi du mien, et je vous rappelle. On se donne 15 jours et je vous rappelle. Alors, je me suis dit, bon, elle ne me rappellera jamais. Si, si. 15 jours après, elle me rappelle et elle me dit, je dois vous avouer que moi, je n'ai pas avancé. Maintenant, vous, est-ce que vous y avez réfléchi? Et moi, j'avais réfléchi, effectivement, à l'idée d'écrire quelque chose sur les représentations de la vieillesse dans la chanson. Parce que j'observe que la chanson, elle parle souvent de vieillesse. Même si, évidemment, elle parle d'une multitude d'autres sujets. Mais elle parle souvent de vieillesse. Et la chanson, elle est nourrie par l'imaginaire collectif et elle nourrit l'imaginaire. Vous voyez, par exemple, quand Louane va bientôt représenter la France à l'Eurovision, elle prend une de ses chansons intitulée « Maman ». Et Louane va chanter quelque chose qui parle de sa mère. Bon, très bien. Mais tout récemment, un chanteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Gonzin Serre, a une chanson dans laquelle il s'adresse à sa grand-mère, qui est décédée, et il lui dit « Si tu voyais, grand-mère, de ton ciel tout là-haut, ton pays qui se perd, t'en aurais des sanglots. Toi qui as combattu tous les marchands de haine, je crois que tu serais abattu en sachant qu'ils reviennent. » Voilà. Vous voyez, Louane va parler de sa maman, 2 générations. Gauvin Serre parle de sa grand-mère, 3 générations. Ça y est, les rapports entre les générations. Donc, je raconte ça à Madame Fabre, qui me dit, allez-y, écrivez votre article. Et tout. Donc, j'ai envoyé mon article, que j'ai écrit, et l'article a été publié. J'en ai été, moi, très touché, très heureux. Et puis, j'ai un ami, celui avec lequel j'ai écrit « La tyrannie du bien vieillir », qui s'appelle Didier Mars. Alors, on a le même âge. Lui est philosophe, moi sociologue. Bon. Et j'aime bien la manière qu'il a de réagir à des questions que je lui pose, des sujets que je lui propose. Je lui envoie mon article en lui disant « Je serais content de savoir ce que tu en penses ». Puis 2 heures après, il me téléphone et il me dit « Bon alors, quand est-ce qu'on remonte sur scène ?» Je lui dis qu'on monte sur scène, mais il me dit oui, je prends ma guitare, parce que lui, il est guitariste, et je prends ma guitare, tu remanies ton article, et puis je prends ma guitare, tu chantes, tu déroules ton article, et on a une conférence qu'on appellera une conférence en chanson, une conférence enchantée sur la vieillesse. Voilà. Et on a une cinquantaine de références à des chansons multiples autour d'une vieillesse redoutée, d'une vieillesse refusée, d'une vieillesse acceptée, d'une vieillesse heureuse, d'une vieillesse amoureuse, d'une vieillesse libidineuse, paillarde et d'une vieillesse tout simplement enchantée, enchanteresse. Voilà. Et
j'allais dire, super, vous allez nous permettre de faire la pause musicale de l'émission Ensemble, tous ensemble, avec le titre « Maintenant que la jeunesse » de Marc Augeret. Donc c'est une chanson que vous nous avez conseillée, Michel, parmi d'autres,
oui,
parce que vous nous avez
fait... un poème d'Aragon, mis en musique, et et interprété notamment par Léo Ferré, par Marc Augeret et Isabelle Aubray.
Exactement, oui, oui. C'est ça. Je vais me permettre de citer quelques paroles et nous allons l'écouter ensuite.
Avec plaisir, merci.
Maintenant que la jeunesse n'est plus ici, n'est plus là, maintenant que la jeunesse vers d'autres chemins légers, maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger, maintenant que la jeunesse a fui voleur généreux, me laissant mon droit d'ânesse et l'argent de mes cheveux. Écoutons.
Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleu, maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi, maintenant que la jeunesse, t'en souviens-tu, souviens-t'en, maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps, maintenant que la jeunesse détourne ses yeux lilas, maintenant maintenant que la jeunesse vers d'autres chemins légers, maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger, maintenant que la jeunesse a fui voleur généreux, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux. Il fait beau à n'y pas croire, il fait beau comme jamais. Quel temps, sans mémoire, on ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir. Il fait beau comme jamais, c'est un temps contre nature, comme le ciel des peintures, comme l'oubli des tortures. Il fait beau comme jamais. Frais comme l'eau, sous la rame, un temps fort comme une femme, un temps à damner son âme. Il fait beau comme jamais, un temps à rire et courir, un temps à ne pas mourir, un temps à craindre le pire. Il fait beau comme jamais.
On est bien de retour sur 106,6 FM Radio Campus Lille avec l'émission Ensemble, tous ensemble, réécoutable à tout moment, en podcast sur les plateformes habituelles, Spotify, Apple Podcast et Deezer. Nous reprenons le cours de l'émission que nous dédions aux travaux du sociologue Michel Billet, spécialisé dans les questions relatives au handicap et à la vieillesse. Michel, tout à l'heure, on disait que donc vieillir, c'est pas qu'une question d'âge, c'est un processus de remaniement continu du rapport que l'on entretient avec le monde, avec les autres, dont le couple, et puis aussi avec soi-même. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et notamment faire le lien avec le deuxième livre qui nous intéresse, nous, dans cette émission, « Vieillir en couple et le lien conjugal ».
Oui. Alors, effectivement, vieillir, c'est forcément procéder à ce que j'appelais tout à l'heure un remaniement continu du rapport que l'on a avec les autres. Les autres au plus près de soi, à l'intérieur du couple, dans la famille, et la famille ne se réduit pas à papa, maman et les deux enfants. J'ai des frères et sœurs, l'épouse, elle a des frères et sœurs, etc. Et puis les familles, on sait qu'aujourd'hui, bien plus encore qu'hier, elles se font, elles se défont, elles se reconstruisent, elles se défendent à nouveau, se construisent encore, etc. Donc il y a une diversité dans les réalités familiales extrêmement importante aujourd'hui. Bref, à l'intérieur de tout cela, on a des rapports qui se nouent, qui se défont, qui se remanient. Il me semble que c'est très important de regarder les choses comme cela, parce que le vieillir, c'est forcément procéder à un remaniement du lien conjugal. Alors, conjugal au sens de marié, mais ça m'est égal, marié, pas marié, en concubinage, déclaré, pas déclaré, bon allez, c'est autre chose.
Malheureusement, on n'aura pas le temps de venir là-dessus.
Bien sûr, bien sûr. J'ai pris conscience de cela personnellement, je me souviens un jour, dans une conférence que je donnais, où je parlais comme cela, des remaniements qui pouvaient se jouer dans l'avancée en âge. Et je me souviens que, au fond de la salle où j'étais, je vois se lever un homme, je sais pas, il avait 70 ans, pas plus, je crois pas, mais une baraque, un type qui devait mesurer 1m90 et peut-être peser 130 ou 140 kilos, vraiment une baraque. Et il prend la parole et il me dit, eh ben moi mon gars, comme ça, il s'adresse à moi, il me dit, eh ben moi mon gars, jamais j'avais pensé que j'aurais sa gueule tous les matins quand je prends mon café. Ah, que j'aurais sa gueule en face de moi tous les matins quand je prends mon café. Voilà, il avait pris sa retraite, il travaillait, il était docker sur le port de La Rochelle, voilà, et il expliquait que tant qu'il travaillait, eh ben, le matin il se levait très tôt, il partait, il ne voyait même pas son épouse. Quand il rentrait le soir, il était fatigué, elle regardait la télé, et lui, il allait se coucher. Et là, ça y est, il est à la retraite, ils sont à la retraite tous les deux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils partagent tout le temps qu'il leur est donné, voilà, et ils ne la supportent plus. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à vivre ensemble qui pourrait donner du sens à ce temps? Il me semble que c'est très important d'essayer de se dire que les relations du couple ne peuvent pas être les mêmes quand le couple se forme, les habitudes se mettent en place, l'habitude nous joue des tours, nous qui pensions que notre amour avait une santé de fer, à la première larme posée, la rouille s'était déposée sur ma musique et sur mes vers, voilà, etc. L'habitude qui se met partout, qui vient tout bloquer, tout abîmer. Alors, il me semble que si je regarde les choses comme cela, ouvrons des questions. J'emprunte cette question à quelqu'un pour qui j'ai aussi beaucoup d'admiration et de reconnaissance. Il s'appelle René Scherrer, il est cancérologue largement à la retraite depuis longtemps, et il a participé à un film qui a été tourné par Bernard Martineau. Alors je ne sais plus exactement en quelle année on était, 1984 je crois, et René Scherrer, cancérologue, vient voir une de ses patientes qui est hospitalisée, et il lui dit, vous voyez, cette patiente, elle avait fait une chute, et elle souffrait d'un cancer très évolué, très avancé. Elle avait fait une chute, elle avait eu une fracture du col du fémur, donc forcément, il fallait se demander s'il fallait intervenir, pas intervenir, très compliqué, faire une opération. Et René Scherrer lui prend les mains, la regarde dans les yeux et lui dit, j'ai pensé que pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble, il valait mieux ne pas vous opérer, mais si votre état de santé évolue, pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble. Imaginez un couple, quel qu'il soit. Ils vivent ensemble depuis 2 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Allez, peu importe.
D'accord ? Radio Campus. Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
Alors je vais faire l'hypothèse qu'il en est capable, lui, ce soir, au moment où, comme d'habitude, on va regarder la télé. D'accord ? Voilà. Il soit capable de s'asseoir en face d'elle, de lui prendre les mains et de lui dire « Allez, ma chérie, ce soir, pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que de regarder un programme que nous n'avons pas choisi, d'accord ? Et puis, est-ce qu'on n'aurait pas mieux à faire que de regarder la télé ? Peut-être qu'on va choisir un film, et qu'on a le droit de le regarder. Mais il fait beau, allez, si on sortait, si on allait faire un tour, on aura froid, et bien quand on va rentrer, on va se réchauffer. On aura chaud, tant mieux. Quand on va rentrer, on va boire un coup. On aura, allez, sortir, bouger. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble ? Alors, il y a ta frangine à qui on n'a pas téléphoné depuis 2 ans, parce que on s'est disputé la dernière fois qu'on s'est vu, et puis, allez, elle va mourir, et on n'aura même pas été capable de prendre de ses nouvelles. Allez, pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble, on l'appelle et on lui dit de venir nous voir la semaine prochaine, on l'invite à dîner. Ah, ça a de la gueule, ça. Pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble, ce soir, on regarde pas la télé. Ce soir, peut-être on se couche et quoi ? Et
est-ce que, est-ce
là,
que...
au lieu d'aller dormir, au lieu d'aller dormir dans la chambre d'amis pour pouvoir regarder le match de foot tout seul, eh ben non. Et il va venir dormir avec elle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'envoyer en l'air comme ils le faisaient il y a 20 ans. Non, mais peut-être qu'ils vont échanger quelques gestes de tendresse, de douceur, d'amour, parce que pour le temps qu'il leur reste à vivre ensemble, ça vaudrait peut-être le coup de se dire encore que l'on s'aime, de se le dire, de se le faire, de se le donner, de... voilà. Peut-être que ce serait pas si mal.
Est-ce que, Michel, vous avez déjà eu ce type de propos, j'imagine, quand vous allez parfois en conférence, que vous portez la parole de votre livre « Vieillir en couple et le lien conjugal » ou « Réenchanter la vieillesse », quand vous en parlez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des personnes qui, à la fin, viennent vous dire « c'est vrai, en fait, c'est juste qu'on prend plus vraiment le temps de se recentrer, de donner plus de sens au temps qui nous reste, comme vous l'avez dit.
Oui.
Est-ce que ça a déjà suscité des réactions et vous avez déjà eu des retours de personnes qui se sont senties concernées, se sont reconnues dans les situations ? Ouais.
Absolument. J'ai vraiment, dans le souvenir, récemment, il y a quoi ? Il y a un mois et demi, deux vieilles copines qui sont venues toutes les deux, elles viennent me voir, elles m'ont pris chacun une main. Il y en a une qui s'est mise à pleurer et qui m'a dit « Eh ben moi, il est mort avant que j'ai eu l'idée de le faire. » Et l'autre qui m'a embrassé, qui m'a pris dans ses bras, oui, qui m'a remercié en me disant « Eh ben, ce soir, je fais péter une bouteille de champagne. » Voilà. Et ça, vous voyez,
une prise de conscience de « il y a encore des choses à vivre ».
Oui, elles sont reparties, elles se donnaient la main toutes les deux, et voilà, mais oui, pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble. Que ce soit en couple, mais ça pourrait être, et quelle que soit la nature du couple, hein, d'accord, mais ça pourrait être avec entre frères et sœurs, voilà, je sais pas... deux vieux frangins qui se sont pas vus depuis longtemps et qui se retrouvent. Voilà, ben oui, franchement. Est-ce que ce qu'on a de mieux à faire, c'est de s'engueuler parce que la dernière fois, non, allez. Ou, vous voyez, ça peut être des amis, tout simplement, hein, des vieux amis qui se disent, je sais bien qu'on va mourir. Allez. Peut-être qu'on pourrait dimanche prochain, il fera beau si on allait se promener. Voilà. C'est pas grand-chose aller se promener, mais ça peut être sympa. Hein. Mais pour le temps qu'il nous reste à vivre ensemble, qu'est-ce que nous aurions de mieux à faire ? Vieillir, c'est oser ouvrir cette question et tenter d'y apporter des réponses qui peuvent varier. Voilà. Pour le temps qu'il me reste à vivre,
faire des choses simples pour recréer du lien, finalement, et peut-être réécrire, parce que j'entendais aussi, effectivement, les habitudes. Alors, quand vous avez commencé à parler, c'est vrai que moi, je voyais, en toute honnêteté, souvent la retraite sous le spectre professionnel, en me disant, c'est une page qui se tourne. Là, vous m'ouvrez une porte, effectivement, de la retraite d'un point de vue conjugal. Je pense qu'il y a, effectivement, si on ne part pas ensemble à la retraite, d'ailleurs, peut-être que ça peut jouer aussi, mais de se dire que oui, une autre page s'écrit et qu'on peut la réécrire en fait et en faisant des choses simples, peut-être retrouver son amour d'il y a 20 ans mais avec 4 fois 20 ans en fait. On n'est pas à la retraite à 80 ans quand même, mais voilà. réécrire simplement parfois les belles choses pour pas avoir de regrets pour la suite.
Et renoncer à cette espèce de formule dont s'est emparé Serge Gainsbourg dans une de ses chansons. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson de Gainsbourg, elle a quelques années déjà. Il, en jouant sur les mots, il disait « C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantriste qui dit toujours « À quoi bon ?»« À quoi bon ?» Voilà. « Je vais mourir. À quoi bon ?»« À quoi bon ?»« À quoi bon ?» Eh bien, beaucoup de nos contemporains vieillissent sur ce registre-là. À quoi bon ? Puisque je vais mourir demain. Bouf, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Je renonce. Alors que, effectivement, vieillir, ça pourrait bien être surtout ne pas renoncer et tenter d'inventer de nouvelles manières de. Alors, de nouvelles manières de vivre en couple, de nouvelles manières, pardonnez-moi, j'emploie l'expression la plus simple, de nouvelles manières de faire l'amour, de nouvelles manières de se dire que l'on s'aime, de nouvelles manières de le mettre en acte, de nouvelles manières de développer des relations avec des gens que l'on aime, de nouvelles manières de faire, de vivre, de nouvelles manières d'être au monde, tout simplement. Mmh.
Vous dites que vieillir finalement, vieillir à deux, ça peut être une chance dans votre propos. Ça peut être le temps de refaire des nouvelles choses, de se réinventer, etc.
Oui.
Parfois, ça peut être aussi une épreuve, comme vous l'avez dit, pour ce monsieur qui finalement se rend compte que j'avais pas l'habitude de l'avoir tous les matins. Là, maintenant, c'est devenu entre guillemets difficile. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez répondu à ce monsieur ? Parce que ça peut arriver dans bon nombre des couples, surtout aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, avec l'âge, se séparent. Il y a beaucoup de divorces, de séparations bien avant, mais il y a aussi un accroissement des gens qui, après 60 ans, se séparent aussi aujourd'hui. Quoi faire finalement ? C'est s'écouter aussi. Il y a un moment où, même si on essaye de se réinventer, de refaire couple, etc., ça peut aussi parfois ne pas fonctionner. Et c'est quelque part revenir à un remaniement pour s'écouter soi-même.
Oui, oui. Eh bien, je me souviens lui avoir répondu et alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? Mm-hmm. Et il m'a répondu : oh ben moi, dès que je pourrai m'en aller, je m'en irai. Voilà. Et j'en suis resté là avec lui, j'ai pas eu d'autres informations ensuite sur ce qu'il a pu faire, vivre, etc. Mais il m'avait dit, dès que je pourrais m'en aller, je m'en irais. Alors, qu'est-ce que ça signifiait ? Est-ce que ça signifiait s'en aller au sens de divorcer ou s'en aller
faire une balade
au sens d'aller faire un tour avec des copains ? Je ne sais pas. Hein. Mais il avait dit ça. Et j'entends, pour être tout à fait honnête, j'entends de temps en temps, quand je parle de ces problèmes de vie conjugale, j'insiste souvent sur le fait que les couples très âgés aujourd'hui sont des couples qui se sont formés à la fin des années 60, d'accord ? Enfin, des années 50 ou des années 60. Autrement dit, ils ont aujourd'hui 80-90 ans. Mmh. Voilà. Et à l'époque, il fallait une jeune femme, on disait une jeune fille d'ailleurs, qui était bien élevée, ne pouvait se marier qu'avec un jeune homme qui serait forcément un petit peu plus âgé qu'elle. Il fallait qu'il ait 3, 4, 5 ans de plus qu'elle, comme ça il aurait un bon métier et il rapporterait de l'argent pour pouvoir, je cite l'expression de l'époque, faire bouillir la marmite, c'est-à-dire apporter de l'argent pour acheter de la nourriture et faire tourner la maison. D'accord ? Et donc, elle avait 18 ans et on la marie, elle se marie peut-être, on la marie avec un gars qui a 5 ans de plus qu'elle. C'est intéressant d'écouter la chanson de Jean Ferrat, une chanson remarquable sur le statut des femmes de cette période-là, de cette époque-là. On se marie tôt, à 20 ans, et l'on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre les courses et la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre des ailes, on n'a pas le temps d'y penser. Chanson sur la condition féminine, hein, remarquable. Donc, elle épouse un gars qui a 5 ans de plus qu'elle. Or, l'espérance de vie des femmes est aujourd'hui encore plus élevée que l'espérance de vie des hommes. Mmh. Elle est de 5 à 6 ans plus importante. Autrement dit, quand lui, il va mourir, quand il aura 78 ou 80 ans, et elle va mourir 5 ans plus tard à cause de l'espérance de vie, mais 5 ans plus tard parce qu'elle avait 5 ans de moins que lui. Mmh. D'accord ? Donc, elle ne mourra, elle, que après 82 ou 80... elle aura 90 ans. Voilà. Autrement dit, lui, il va finir sa vie accompagné par une présence attentive, d'accord ? Et 10 ans plus, elle sera veuve pendant une dizaine d'années. Et là, quand je formule les choses comme ça, il arrive de temps en temps que j'entende des gens dire « enfin veuve ».
Ouais. Bon, c'est, oui. on va,
ça peut même se comprendre.
On va conclure avec ça qui est un petit peu moins joyeux que de tout ce qu'on a dit de l'émission, mais c'est quand même aussi une réalité et on voulait venir là-dessus.
Oui.
Michel, vous l'avez bien compris, sûr. On arrive au terme de notre émission, mais vous allez avoir le mot de la fin et donc je compte sur vous pour montrer que c'est quand même positif de vieillir, surtout quand on s'appelle Michel Billet et qu'on a plein de choses à partager. On vous remercie d'ailleurs de vous être rendu disponible et d'avoir accepté notre invitation à distance. On sait que c'est
merci
pas toujours
vous.
Facile, mais on a pu parler de vos divers ouvrages et puis surtout d'ouvrir ce sujet sur le vieillissement. On espère que ça aura attisé la curiosité des auditeurs, voire que ça mènera à des réflexions pour certains. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, nous.
Et avant de conclure, par nos deux habitudes, nous allons vous donner le mot de la fin. Nous avons pour habitude de demander aux interlocuteurs de partager leurs coordonnées si jamais les auditeurs veulent davantage se renseigner. Dans votre cas, Michel, on se doute que vos ouvrages sont dans toutes les bonnes librairies, mais est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux ou vous contacter par email ?
Oui, alors vous pouvez me suivre sur Facebook et sur LinkedIn en particulier. Et si quelqu'un souhaite me contacter par email, mon email il est le suivant, tout simplement en minuscule, michel.bille, parce que mon nom s'écrit avec un accent aigu sur le E, mais là, pour l'email, on l'enlève, michel.bille 86, comme le numéro du département de la ville où j'habite, Poitiers, michel.bille 86, @orange.fr.
Merci pour ces coordonnées. Et enfin, le fameux mot de la fin, est-ce que vous avez une phrase qui vous tient à cœur ou une actualité à nous partager ?
Alors, petite anecdote minuscule. Quand j'ai voulu arrêter de fumer, parce que j'ai commencé à fumer comme tous les gamins de ma génération, je devais avoir 12 ou 13 ans la première fois, voilà, ce qui n'était pas très malin, mais bon, c'est comme ça. Quand j'ai voulu arrêter de fumer, j'ai évidemment décidé de reprendre un peu d'activité physique. Alors, j'ai essayé d'aller courir, et puis j'ai pas réussi. Alors, je raconte ça à un copain qui me dit « Ben, dimanche prochain, j'irai courir avec toi. » Et il regarde comment je démarrais ma course et il me dit « Mais non, pas comme ça. Il va falloir que tu apprennes à courir lentement. » Eh bien voilà, qu'est-ce que c'est vieillir ? Vieillir, c'est apprendre à courir lentement. C'est pas la performance qui compte, c'est le plaisir de faire. Voilà. Et après tout, dans toutes les sphères de nos vies, on peut essayer de découvrir le plaisir de la course lente. Et pour finir vraiment, permettez-moi juste une toute petite référence à Ronsard. On est en 1950. Il s'adresse à celle qu'il aime et il lui dit « Donc si vous m'en croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. » Puisque cette fleur va, la beauté de cette fleur va ternir, apprenons donc à courir lentement pour profiter longtemps de la vie qu'il nous est donné de vivre.
Bah écoutez, merci. Moi, je cours déjà lentement à 40 ans, donc je ne sais pas à quelle vitesse je vais courir dans 80, mais en tout cas, je vais continuer la course à pied. Merci à vous.
Bravo.
Et pour terminer avec nos deux habitudes de notre émission Ensemble, tous ensemble, d'abord une citation en lien avec notre sujet. Aujourd'hui, on vous propose celle de Jacques Salomé, psychosociologue et écrivain français, qui nous dit « Vieillir, ce n'est pas seulement ajouter des années à la vie, c'est aussi donner de la vie aux années. » Et je pense que vous partagez aussi
Absolument.
Cette idée. Et puis nous terminons l'émission, comme depuis 2 ans maintenant, avec la lecture d'une lettre écrite par un anonyme pour un seigneur isolé via le dispositif Une lettre, un sourire, avant de nous retrouver le mardi 3 juin 2025 pour une nouvelle émission d'Ensemble, tous ensemble. Bonne lecture de la lettre lue, prenez soin de vous et des autres. À bientôt.
Chère madame, je m'appelle Evan et en cette belle période de Noël, je voulais prendre un moment pour vous écrire et partager un peu de joie avec vous. Cette saison, avec ses lumières scintillantes et son ambiance chaleureuse, me rappelle à quel point il est important de penser aux autres et de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. J'espère que cette lettre mettra un sourire sur votre visage. Peut-être que, comme moi, vous aimez les petits plaisirs de cette période. Les ordures de biscuits sortant du four, les chansons qui résonnent, de la magie d'un sympa décoré. Personnellement, j'adore regarder les lumières qui illuminent les rues. C'est comme si elles chassaient l'hiver pour laisser place à la chaleur du cœur. Avez-vous des souvenirs particuliers de Noël qui vous tiennent à cœur? Une tradition que vous aimiez autrefois? Une anecdote qui vous fait encore rire? J'aimerais beaucoup imaginer ces instants qui illuminent vos souvenirs. Sachez qu'à travers cette lettre, je vous envoie toute ma bienveillance et mes pensées chaleureuses. Vous êtes précieuse et cette période de fête est l'occasion de célébrer la joie d'être ensemble, même à travers quelques mots. Je vous souhaite un très beau Noël, rempli de douceur et d'éclat, de rire. Prenez bien soin de vous et sachez que quelqu'un pense à vous avec beaucoup de tendresse, avec toute mon affection. Evan.
Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi, je ne me souviens. Ensemble, nous l'avons franchi. Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici, toi, là, était-ce un lundi, je ne me souviens là, que d'un mur immense, mais je nous étions ensemble, ensemble. Ensemble, tout est plus joli. Reviens-moi de tes voyages si loin. Reviens-moi, tout ça, je t'en ai. J'ai besoin de nos chemins qui se croient.
Campus Lille, il est 17h.